L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette édition, nous sommes avec Juliana, stagiaire cette semaine à Radio B. Bonjour Juliana.
Bonjour Perrine, bonjour tout le monde.
Lundi dernier, Isabelle Mestre évoquait avec nous l'offre de location de vélos à destination des entreprises du territoire proposée par la station. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Guéraud, adjoint au maire de Bourg-en-Bresse, délégué à la proximité et au déplacement. Il évoque avec nous les engagements et les enjeux de la mobilité douce en ville, avec des pistes cyclables, mais pas seulement. Découvrez son interview après les brèves. L'un dans l'autre, les brèves.
Le cinémateur fait son festival.
L'association de cinéphiles chargée de la programmation art et essai du cinéma La Grenette de Bourg-en-Bresse vous présente la 10e édition de son festival Écran Total. Elle aura lieu du 28 février au 12 mars 2024. Programmation bientôt disponible en ligne.
PTGE ou projet territoire pour la gestion de l'eau dans les dombes.
Le projet Eau 1 Dombes Saône 2050 est une approche globale de la ressource en eau sur le territoire de la Dombe. Le secteur est impacté par le réchauffement climatique. Sa nappe phréatique présente un niveau historiquement bas et ne se recharge plus en hiver. Suite au bilan de janvier, plusieurs phases de projet sont définies. En juillet 2024, il s'agit de développer des stratégies pour adapter les pratiques actuelles à la situation. En décembre 2024, un programme d'action chiffré devra être proposé. Tous les usagers du territoire sont amenés à participer, agriculteurs, industriels, navigation, énergie, usagers récréatifs, etc.
New Deal Mobile, la réduction des zones blanches dans l'Ain.
Accord historique passé entre l'État et les opérateurs de téléphonie afin d'offrir une couverture mobile de qualité aux Indinois où qu'ils habitent. Sur le département, 58 sites sont ciblés depuis 2018. 8 d'entre eux bénéficieront du programme en 2024. Pour suivre le projet, rendez-vous sur arcep.fr.
Emploi saisonnier à Bourg-en-Bresse.
Et oui, l'été arrive plus vite qu'il n'y paraît. Et comme tous les ans, la ville de Bourg-en-Bresse propose des emplois saisonniers dans différents services. Des postes non spécifiques pour lesquels un formulaire est à compléter en ligne ou un dossier à télécharger et à renvoyer par courrier. Des postes spécifiques sont quant à eux accessibles sur CV et lettres de motivation. Ils concernent les secteurs de l'aide à la mobilité, le sport, l'animation sportive à Bouvant ou en centre de loisirs et enfin l'accueil et l'entretien du parc de Bouvant.
L'un dans l'autre, l'interview.
On vous l'annonçait en introduction, nous recevons Sébastien Guéraud pour parler de la mobilité douce au cœur de Bourg-en-Bresse. Les travaux, les coûts, les besoins de chacun, vous saurez tout sur la gestion des aménagements urbains. Depuis 2020, les pistes cyclables se sont multipliées à Bourg-en-Bresse, notamment avec des pistes bidirectionnelles sécurisées. Elles offrent des voies de circulation confortables pour les cyclistes et autres de roues non motorisées. Les aménagements urbains continuent, notamment sur le boulevard Charles de Gaulle qui relie l'abbaye de Brou au quartier de la Croix-Blanche. On reçoit Sébastien Guéraud qui est adjoint au maire de Bourg-en-Bresse, délégué à la proximité et déplacement. Bonjour.
Bonjour.
Alors on voit qu'il y a une grande implication de la municipalité dans le développement de la mobilité douce. Est-ce que c'est en lien direct avec une demande des habitants ?
Oui, globalement, les habitants de Bourg souhaitent toujours circuler en automobile, mais beaucoup se déplacent à pied, en vélo, ou bien ils vont promener leurs enfants, leurs petits-enfants en poussette, et ils sont très demandeurs d'espace sans être en conflit avec les voitures. La vitesse, par exemple, est un élément important dans la perception qu'ont les usagers autres de l'espace public. Et donc, nous, notre idée, c'est de développer des espaces où les gens puissent se déplacer autrement qu'en automobile. Donc c'est d'offrir aux habitants, selon le moment de leur journée ou de leur vie, de se déplacer autrement.
Et comment vous recensez ces besoins de la population ?
Alors déjà, nous avons ce qu'on appelle une politique de proximité, qui a été mise en place durant le mandat précédent. C'était Isabelle Mestre, qui est aujourd'hui première adjointe, qui a piloté cela. Donc tous les courriers que le maire reçoit sont détournés sur un élu, le maire adjoint à la proximité. Et donc on perçoit beaucoup de choses. On perçoit des choses sur la propreté urbaine, sur l'insécurité. On perçoit des choses donc sur la circulation. Et l'idée, des gens, c'est de dire, et moi je fais comment pour faire du vélo, je me sens en insécurité. Alors c'est vrai que les pistes bidirectionnelles restent un élément de débat, puisque les cyclistes les plus chevronnés nous disent « nous n'avons pas besoin de cela ». Néanmoins, pour ceux qui souhaitent se remettre au vélo ou qui se sentent en insécurité sur les pistes qui sont latérales, la piste bidirectionnelle offre une sécurité. Et donc, dans le programme pour les élections municipales de 2020, nous avions proposé un réseau vélo express qui était un ensemble de pistes bidirectionnelles et de pistes qu'on appelle à voie partagée ou avec des pistes bilatérales. Nous avons maintenant le mandat de le réaliser. Et c'est une politique de longue haleine, parce qu'il faut en même temps expliquer que nous allons répartir l'espace public et que nous allons parfois enlever un peu d'espace aux automobilistes, ou bien devoir partager l'espace entre les piétons et les cycles. Et au final, c'est cette question-là qui pose le plus de difficultés.
Donc il y a toute une éducation derrière à faire auprès de la population. Comment ça se passe ?
Est-ce que nous sommes là pour éduquer ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est peut-être le temps, l'expérimentation de chacun qui va faire en sorte que, tiens, là, il y a un cycle. Là, il y a un piéton. C'est vrai que le fait que le piéton veuille s'engager sur le passage, il a fallu quand même 10-20 ans pour que les gens disent, s'il veut s'engager, je m'arrête. Et c'est la même chose qui va advenir pour la circulation en cycle. Pour ce qui est des pistes bidirectionnelles, nous avons bien conscience que la difficulté, c'est lorsque l'on a des croisements. Pour l'instant, on a des frictions, on a un moment où on a peur que la voiture s'engage, ou elle s'engage, et nous ne devons nous arrêter lorsque nous sommes cycle. Donc c'est tout un temps d'apprentissage. C'est vrai qu'il y a des moments tendus. Nous avons bien conscience que des cyclistes sont en difficulté, que parfois les automobilistes se disent « que fait le cycliste ici ?» Mais on n'a pas d'événement dramatique pour l'instant, heureusement, croisons les doigts. C'est ce temps d'apprentissage qu'il faut que tout le monde fasse. Et autant les automobilistes doivent prendre conscience, autant aussi, parfois, les cyclistes doivent se dire qu'ils n'ont pas l'habitude de nous voir. C'est vraiment ce moment où chacun doit prendre conscience de l'autre qui doit primer.
Comment sont gérés les travaux, notamment à côté, par exemple, de la Traverse, qui est la piste cyclable gérée par Grand Bourg Agglomération ?
Ce ne sont pas les mêmes destinations, quoique. La Traverse a d'abord été conçue comme un moment de se déplacer, on va dire le week-end, ou pour le cyclotourisme. Aujourd'hui, nous rendons compte que la Traverse est aussi utilisée pour ce qu'on appelle le vélo taf. Des gens qui habitent à 8-10 km de Bourg, qui n'ont par exemple plus d'enfants à balader entre l'école, le judo, le football, le rugby, etc., vont pouvoir plus facilement se déplacer en vélo. Ils font juste un aller-retour. Donc la Traverse est devenue, à ce titre-là, une autre voie que ce à quoi elle était destinée au départ. Donc nous réfléchissons autrement, effectivement, lorsque nous aménageons la Traverse et lorsque nous aménageons des voies cyclables dans Bourg. Nous avons vraiment conscience de l'objectif de rapidité pour les cyclistes. Les cyclistes, au final, ce sont souvent des automobilistes qui sont passés au cycle. Et ils gardent les mêmes réflexes. Ils vont garder le même trajet. Ils vont avoir la même volonté de se garer à proximité. On va consulter. Alors, on consulte les associations qui sont liées au cycle. C'est ma collègue conseillère municipale, Bénédicte Certin-Bresson, qui pilote ce qu'on appelle le groupe de travail cycle à la ville. Et dans ce groupe de travail, nous avons donc les associations représentatives des cycles et nous avons des représentants des conseils citoyens, des représentants aussi des associations de PMR, de personnes à mobilité réduite, parce que souvent, ils ont les mêmes problématiques au même endroit, mais maintenant pas sur les mêmes espaces, de manière à pouvoir discuter.
Et comment le coût de ces aménagements est impacté au niveau budgétaire ?
C'est un coût global. Quand on fait un aménagement, on ne se pose pas la question de savoir ce qui est consacré aux automobilistes, enfin aux automobiles, au trottoir, ou bien à la voie cyclable, de la même manière que lorsqu'on va concevoir une voirie complète, on va la restructurer, on ne regarde pas la dépense lorsqu'il faut végétaliser. Parce qu'au final, la piste bidirectionnelle a un coût, c'est la bordure, c'est ce qui vaut le plus cher à chaque fois, Et de la même manière, lorsqu'on veut mettre un arbre, c'est une fosse. Ce sont des bordures, donc ce sont toujours des aménagements qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on s'était imaginé au départ. Cependant, on n'est pas là pour répondre à la demande d'il y a 5 ans. On est là pour répondre à la demande de dans 20, 30 ou 40 ans. Parce que lorsque nous réaménageons l'intégralité d'une voirie, on sait qu'on va la réaménager pour 40 à 50 ans.
Donc ça veut dire que vous prévoyez la verdure aussi ?
Oui, nécessairement. Alors la verdure, c'est encore plus compliqué que les cycles. Parce que la verdure, il faut savoir ce qu'il y a dessous. Il y a le gaz, l'électricité, il y a la fibre, il y a l'eau.
Un des grands enjeux de l'avenir.
C'est un des grands enjeux. Et que parfois, nous n'avons pas, au final, des voies aussi larges que ce que nous souhaitons à Bourg. Et qu'il faut faire un choix. Et qu'on a des quartiers où beaucoup de maisons sont des maisons de ville, sans espace pour se stationner à l'intérieur. Donc, même si je sais que dans le quartier, des gens ne prennent leur voiture qu'une fois par semaine, ou toutes les deux semaines, ils ont leur voiture garée dans la rue. Et donc, on ne peut pas tout redessiner, on ne peut pas élargir les rues. C'est parfois un peu un casse-tête. Si on prend les pistes bidirectionnelles, elles restent sur des axes très larges. On ne fait pas passer une piste bidirectionnelle au milieu d'un quartier. Elles ont vraiment, ces pistes bidirectionnelles, l'objectif d'être une sorte de rocade pour les vélos. Ensuite, on a les voies partagées, on a les voies bilatérales, on a les endroits où les vélos peuvent être librement à contresens. C'est ce que nous dit la loi. Dès qu'on est à 30 km/h, on peut être à cycle à contresens. Et nous avons passé, on va dire, une grande partie des rues à 30 km/h depuis quelques mois. Mais dès qu'on va vers des aménagements qui ne sont pas donc ces aménagements sur ces grandes voies, nous consultons les habitants de deux manières. Soit nous y allons avec une feuille blanche et ils nous disent ce qu'ils constatent et ce qu'ils souhaiteraient. Et puis nous leur faisons une proposition en fonction des remontées que nous avons. Ou bien quand c'est beaucoup plus contraint, quand on n'a pas d'espace en fait. C'est nous qui leur proposons parce qu'il ne sert à rien de faire croire aux citoyens qu'on peut tout mettre dans un tuyau, alors qu'on ne peut pas y mettre grand-chose.
La mobilité douce, d'ailleurs, ça n'est pas que le vélo, et il y a toujours beaucoup plus de piétons que de cyclistes. Comment la ville, la rue, évolue-t-elle aussi au gré des besoins de la population dans ce sens-là ? Vous parliez par exemple tout à l'heure des personnes à mobilité réduite. Comment elles sont prises en compte dans les aménagements ?
La loi nous impose, et c'est tant mieux, que lorsque nous retouchons une voirie, si nous touchons la structure de la voirie, nous devons la mettre aux normes, c'est-à-dire 1,40 m de chaque côté. Il est possible d'obtenir des dérogations dans des rues très étroites. Il est possible qu'il y ait 1,40 m d'un côté et moins de l'autre. En disant, voilà,
on parle des trottoirs. Hein.
Des trottoirs. Nous vous garantissons un cheminement sur les trottoirs pour les personnes à mobilité réduite. Parfois, cela nous dissuade d'intervenir dans une rue quand nous savons qu'on n'avait vraiment pas d'espace et qu'au final, les choses se passent. Nous laissons la rue vivre. Parce que les gens trouvent. Parce qu'à trop intervenir, nous avons souvent l'effet inverse. Les gens vivent. Les personnes à mobilité réduite passent, les piétons passent, les vélos passent, les voitures passent, se garent, etc. Et quand on veut trop, quand on veut trop réglementer, on va susciter des réactions inverses. Néanmoins, sur des axes plus importants en termes de circulation, sécuriser les piétons, les séparer des cycles, sécuriser les PMR. Quand on pense PMR, les gens pensent souvent aux personnes qui se déplacent sur un fauteuil, etc. Et nous devons garantir leur bon cheminement. Nous avons, en tant qu'élus, à peu près tous essayé le fait de se déplacer sur un fauteuil. C'est vrai que parfois, ce qui nous paraît à l'œil nu franchissable l'est difficilement avec un fauteuil. Mais il y a aussi personnes qui sont malvoyantes. J'en ai encore eu ce matin et je me suis dit, tiens, ici, il manque ça. Il manque une bande pododactyle pour que la personne puisse se repérer parce que je la sentais ne pas pouvoir se repérer. Donc c'est véritablement sur le terrain, nécessité de prendre en considération les besoins de chacun, sans gêner la liberté des autres.
Donc finalement, c'est construire une société inclusive, rue à tout le monde.
La rue à tout le monde. Savons que nous allons vers une société d'une population qui vieillit et nous savons que nous devons nous adapter à cette évolution. Nous devons avoir donc des cheminements plus sécures. Nous devons aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflits, de moins en moins de conflits entre ceux qui se déplacent à pied et ceux qui pensent qu'une trottinette est un engin de circulation habituel. Il y a toutes ces questions qui se posent quand on est sur cet espace en dehors des automobiles et en dehors des vélos. parce qu'on a aussi un troisième espace, et celui-là, il est très compliqué à gérer. On a de vraies remontées de gens qui se sentent en insécurité parce que les trottinettes vont vite et que les vélos, parfois, vont vite à côté d'eux.
Alors, quelles sont les prochaines tranches de chantier là, sur la ville ?
Alors, pour ce qui est de 2024, nous avons annoncé les travaux sur le boulevard Charles de Gaulle. Mais il n'y a pas que la piste bidirectionnelle, puisque nous allons faire en sorte que les habitants du quartier de la Croix-Blanche puissent traverser. Le boulevard va donc recevoir des traversées piétonnes sur le carrefour de la Croix-Blanche, entre le boulevard Kennedy et ce quartier de la Croix-Blanche, sur l'avenue Amédée-Mercier. En gros, quand on passe du côté, on va dire, Baudière, Charles Robin, vers le quartier, vers Carrefour, il y aura une traversée, et il y aura une autre traversée piétonne qui va se situer au droit de la médiathèque. L'idée de ce boulevard, c'est vraiment de le rendre beaucoup plus urbain, de montrer à tous ceux qui circulent qu'il y a des gens qui habitent autour et qu'il y a des gens qui le traversent.
Merci Sébastien Guéraud.
De rien.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Juliana, merci Jimmy, à la réalisation.
Bonnes vacances à celles et ceux qui vont en profiter.
On vous retrouve lundi prochain à 18h pour de nouvelles infos qui vous engagent. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.